Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Aujourd'hui, on va parler World of Goo, les meilleures ventes de la décennie aux États-Unis, le com des coms. On va revenir sur Streets of Fury, dont on avait parlé la semaine dernière, mais hasard, on a eu un commentaire d'un des créateurs, et puis on a décidé de les inviter, d'inviter les créateurs de ce jeu indépendant du Community Games de la Xbox 360, donc Cyril Lagarrigue et Jordi Asensio. Cities XL, le jeu de la semaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net pour la chronique jeux de société, la minute culturelle évidemment, celle qui fait peur à nos chroniqueurs. Et puis bon, on continuera à parler de Streets of Fury et de ce nouveau marché des jeux indépendants sur console. Et puis voilà, ce sera tout pour cette semaine, c'est déjà pas mal. Et je vais commencer en accueillant mes deux chroniqueurs favoris, non deux de mes chroniqueurs, je vais te faire engueuler par Monsieur Fall, je vous fais vachement attention. Clément Apap, bonjour Clément.
Bonjour.
Et Patrick Elio de Rogamer.fr. Bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et j'accueille aussi, donc comme je l'ai dit, Cyril Lagarrigue. Bonjour,
bonjour
Cyril. Et Jordi Asensio. Bonjour Jordi.
Salut.
Les deux créateurs de Streets of Fury. On va commencer avec toi Clément. Tu vas nous parler de...
De World of Goo. On en avait parlé ici il y a une petite année. Parce que là effectivement le célèbre jeu de Two Day Boys vient de fêter son premier anniversaire.
Oui.
Et à cette occasion, en fait, ils ont eu une initiative assez intéressante, un peu comme pour l'album de Radiohead. Mm. C'est-à-dire que leur jeu sur PC est disponible au prix que l'on veut, à condition que l'on mette au minimum 1 centime de dollar, ce qui fait 7 centimes d'euros. Donc jusqu'au 19...
Pardon.
Voilà.
Attends, tu veux... Non, c'est...
Non, c'est l'inverse.
Non, okay. Ça
non,
fait
non, non, c'est pareil.
c'est pareil.
J'étais encore en francs, en francs euros.
C'est bien ce que voilà.
Donc à partir de 1 centime d'euro environ, et donc jusqu'au 19 octobre prochain, il suffit d'aller sur le site 2dboy.com pour acquérir la version PC au prix que l'on souhaite, sachant que c'était quand même un très bon jeu.
Si on n'y a pas joué, c'est vrai que ça vaut le coup.
Clairement, c'est le cas de le dire.
On voit apparaître de plus en plus d'ailleurs d'espèces de clones de World of Goo, que ce soit sur iPhone, en Flash et tout ça. C'est un bon concept de
construction.
C'est un bon
concept, ouais. Ça prouve que le concept était bon. Ouais.
Voilà, donc ceux qui n'ont pas encore joué à World of Goo, vous avez le droit de vous jeter dessus et de donner plus d'un centime d'euro si vous voulez.
Ou de dollars, pardon.
Patrick.
Oui, alors un classement intéressant. Cette semaine qui nous vient des États-Unis, en fait, un classement des meilleures ventes de la décennie en jeux vidéo publié par le cabinet d'études NPD. Alors c'est intéressant parce qu'on a quand même une très belle décennie du jeu vidéo. Les 10 dernières années ont été bien remplies en très bons jeux.
Et c'est Patrick Elio qui le dit,
et oui,
qui est resté scotché aux années 80 normalement.
80, 90. Mais pas seulement, il faut aussi regarder les jeux actuels et on a eu une très belle décennie. Aux États-Unis, le jeu numéro 1 qui s'est le plus vendu sur les 10 dernières années, c'est We Play,
Ah, mais ça, c'est de la triche. Hein.
Alors voilà pourquoi on en a parlé un petit peu avant.
Moi, je pense que WePlay est dopé à la Wiimote.
Exactement. Donc, parce qu'on va rappeler, donc WePlay, c'était un jeu multi-épreuve qui faisait un peu écho au Wii Sport qui était fourni de la console.
Un jeu un peu pourri.
L'avantage du jeu, c'était qu'il était livré avec une Wiimote supplémentaire. Je crois pour le prix d'un jeu quasiment.
Et un Nunchuk, non?
Non, juste à Wiimote. Hein. Et évidemment, ça a contribué au doubler l'équipement de Wiimote. On achetait surtout la Wiimote et on avait le jeu en plus. C'est et comme tout, tu voilà, dis, Clément, c'était pas un jeu exceptionnel, loin de là. Donc voilà, c'est un titre qui a clairement été dopé par la Wiimote inclus dans la boîte.
Mais après.
Ensuite, le numéro 2, à votre avis? Sur les 10 dernières
Mario,
années aux US.
Un Mario.
Ah, pas loin, c'est pas ça. On en est pas loin, parce qu'il est aussi dans il y a un autre titre Mario dans le top 5. La deuxième meilleure vente, c'est San Andreas.
On n'est pas loin. C'est presque ça. C'est un jeu vidéo.
C'est d'ailleurs intéressant. Sur ce top 5 des meilleures ventes de la décennie, on a deux séries qui reviennent. Donc on a GTA San Andreas, qui est la deuxième meilleure vente. J'ai pas donné le chiffre, hein, je crois, pour WePlay, qui était de 11,1 millions de ventes.
Ouais, c'est bien aux États-Unis ou c'est dans le monde?
Sur le marché américain.
D'accord.
Ensuite, donc San Andreas, on a 8,250 millions. Ensuite, on a GTA Vice City, qui vient derrière, qui était excellent, les années 80, rappelez-vous.
Souvenez-vous.
Inspiration Miami Vice, Scarface, il nous a tous laissé un super souvenir. Et puis, on ferme la marche avec Mario Kart Wii, qui a fait un gros carton aussi, avec 6 700 000 exemplaires. Voilà.
D'accord.
Donc, comme tu disais.
Et sur les autres, t'as pas.
Non, c'est ce que j'avais noté, là. Ce sont les titres que j'ai sous les yeux pour tout dire.
Donc, voilà.
Mais en tout cas, voilà, des bons jeux, globalement, avec les GTA qui sont très marquants. Enfin, moi, en ce qui me concerne, c'est vraiment les jeux qui m'ont marqué.
Ouais, mais meilleure vente, quand même, 2 et 3, c'est quand même assez impressionnant. Ouais.
Et le Mario Kart Wii, évidemment. Aussi.
Évidemment. Le com des coms de la semaine dernière. Alors, il y a rapidement Boom Shakai qui revient donc sur l'énigme. Je pense que ce sera l'énigme de la saison 3, c'est à quel jeu j'avais joué avec les ombres et les lumières.
Hein. Eh oui.
Donc il parle de Heart of Darkness sur la PlayStation. Non, ce n'est pas ça. J'ai regardé les images. Ce n'est pas ça. Oui.
J'ai oublié un titre dans le top 5.
Dis-moi.
Wii Fit en troisième position.
Ah oui, quand même.
Important.
Ah oui. Donc de la Wii quand même. Hein. Sur la dernière décennie, c'est la Wii qui.
Important. Voilà. Il fallait le préciser.
Donc ce n'est pas Heart of Darkness. Killscore 2600 qui cite. Donc c'est arrivé à la 15e minute de l'émission, ça plaira aux fans de la 3DO, je sais qu'il y en a qui nous écoutent, à 15 minutes 30, ça nous manque, les jeux digitalisés, c'était Patrick Helio évidemment, et Killscores 2600 nous dit merci Patrick pour ces petits moments rares et précieux.
Rare, ailleurs.
Il s'est incontestablement joué avec la fibre nostalgique, même si personne n'a jamais joué à la 3DO, hormis les journalistes de l'époque, j'entends.
Pas seulement les journalistes. Il y avait quelques personnes qui avaient les amis des journalistes.
Romain, si vous parlez plus souvent de Dieu, je veux dire David Bowie, on ne vous en tiendra pas rigueur. Hein,
parce qu'il y avait
Et d'ailleurs, juste à propos de David Bowie, il y a un internaute qui est, je ne sais plus qui, Ewok, qui nous disait, qui faisait référence à un post qu'il y avait, un post dans les forums de GameSpot, hein, qui disait David Bowie is in every fucking games, et qui est un post à lire. En fait, c'est dans les commentaires de l'émission.
Il y a des iconos d'ailleurs qui correspondent, dont certains peuvent
donc
peuvent
c'est
être
pas
discutés,
les c'est pas des apparitions officielles de David Bowie, mais c'est tous les personnages
les inspirations de ces différents looks. C'est intéressant à voir.
C'est pas mal. Et alors, je reviens sur Romain qui disait je voulais vous remercier pour Jump que j'ai découvert grâce à vous. Ce jeu est vraiment une pure merveille. Et à ce prix, c'est un crime de ne pas l'acheter. Dommage qu'Arkedo n'ait pas choisi d'en faire un jeu XBLA classique plutôt qu'un jeu indépendant. Ça limite la visibilité. On en parlera tout à l'heure. Voilà, donc il revient et il précise aussi le héros de Jump s'appelle Jump Boy et non pas Jump Man, mais je suppose qu'il s'agit tout de même d'une référence aux origines de Mario. Connaissant les Lascar d'Arkedo, je pense que notre auditeur a raison. Streets of Fury. Donc, on en avait parlé rapidement la semaine dernière. On a aujourd'hui, on a la chance, l'honneur d'avoir les deux créateurs de ce jeu indépendant. Donc, on trouve sur le Community Games de la Xbox 360, Cyril Lagarrigue et Jordi Asensio. Alors, quel est votre rôle déjà à chacun de vous deux sur le jeu ?
Alors, le pitch, déjà, peut-être qu'il nous raconte un peu le pitch, parce que tous les auditeurs n'ont pas forcément. Et il est tellement bon le pitch, il faut le rappeler, je pense.
Allez, qui s'y colle au pitch ?
C'est simple.
Jordi.
C'est les émeutes de banlieue. Et le président, il ne peut plus rien faire parce que l'armée s'est mise en grève. Parce qu'ils sont français, donc ils se mettent en grève. C'est logique. Donc, il passe un coup de fil au gang de Los Angeles. Qui vont arriver avec leur Kärcher pour tout nettoyer, voilà, tout simplement.
D'accord.
D'accord, c'est pour ça, en fait, que quand on avait parlé du jeu, j'avais un peu de mal à m'imaginer que les développeurs étaient français. On est vraiment dans la caricature, ouais. Dans la caricature de la France vue d'outre-Atlantique.
Alors, l'histoire, elle est pas de nous, on a un scénariste.
Ah oui, quand même.
On a un scénariste attitré qui est américain.
Hein. Voilà.
D'ailleurs, c'est assez étonnant quand on parcourt le jeu, on sent que c'est un jeu à message quelque part. Il y a un moment dans un niveau, il y a quand même le portrait d'un président de la République qui est inséré dans le jeu. Et on sent qu'il y a quand même il y a un message.
À chacun y voit le message.
Voilà. Enfin, après,
donc le pitch. Pas avoir de problème.
Donc c'est le pitch de Streets of Fury. Alors Cyril, quel a été ton rôle?
Alors en fait, on designait tous les deux. En fait, c'est un travail collectif au niveau du design. Moi, j'ai fait pratiquement toute la programmation du jeu et j'ai fait les décors aussi. Donc je me suis baladé. Alors c'est un jeu qui est censé se passer à Paris, mais pas mal des textures de décors viennent de Montréal. Mais
d'accord.
C'est pas grave.
C'est pas grave.
Et j'ai programmé et fait les décors.
Parce que tu es aussi, par ailleurs, on le précise, parce que vous n'êtes pas des venus de nulle part dans l'industrie du jeu vidéo. Donc Cyril, tu travailles à Ubisoft en tant que programmeur.
Exact.
Et Jordi, tu es game designer au studio Cyanide.
Tout à fait.
Voilà. Et donc Jordi, ton rôle dans Streets of Fury?
Eh ben, ça a été élaboré au départ tout ce qui est technique pour la digitalisation des persos. Vu que je travaillais dans la mise en scène avant, on a construit un studio de blue screen dans mon garage, tout simplement.
D'accord. Voilà,
avec les caméras, les fonds et tout ça. Et après, je me suis occupé de faire les personnages.
Voilà. Tu joues toi-même dans le jeu d'ailleurs.
Voilà, je suis un des acteurs, effectivement.
Mmh. Alors
voilà.
Pourquoi aujourd'hui de la digitalisation? Parce que c'est vrai que c'est un peu une techno qu'on utilise moins aujourd'hui dans les jeux vidéo. Donc pourquoi vous avez choisi d'utiliser cette façon de faire?
Alors, on n'est pas des graphistes, voilà. On n'est pas des graphistes, on sait pas tenir un crayon. Et moi, j'étais donc du coup dans le cinéma. Donc la chose que je savais faire, c'était filmer. Et ça, c'est depuis tout jeune, depuis qu'on a 10 ans, en fait, on fait des jeux en digitalisation. Ouais. Donc on a un peu grandi avec et on a essayé de faire évoluer le processus. Et donc maintenant, avec la technologie, on a quand même des animations... à 25 images par seconde.
Oui, parce qu'on est assez éloigné du Mortal Kombat de notre enfance.
En fait, ce sont des petites séquences vidéo en fait qu'on enclenche à chaque animation.
Filmé tout simplement.
En fait, le truc, faut plus penser au Mortal Kombat de l'époque. C'est vraiment maintenant, toutes les frames sont là et c'est vraiment fluide. Et nous, on aime ça. Enfin, on aime bien la fluidité. On aime bien avoir les visages parce que souvent, c'est les choses les plus dures à faire dans les jeux vidéo, faire des personnages qui rendent bien, des personnages bien animés, des visages qui rendent bien. Et ça, on l'a gratuitement avec. C'est assez lourd de faire un personnage parce qu'il faut le tourner et tout, mais une fois qu'on a le personnage, on peut rajouter des animations. Enfin, c'est vraiment l'animation, on la filme et on la détoure et puis c'est là, quoi. Donc, c'est vraiment des avantages pour faire des persos avec des tonnes d'animations. Du coup, dans le jeu, il y a des animations rigolotes.
Ça rédit pas un peu le gameplay, justement, d'avoir que de la digitalisation, des animations
Alors, il y a des contraintes, en fait. En fait, il faut trouver plein d'astuces. C'est-à-dire qu'il faut trouver une façon de tourner pour que les animations s'enchaînent bien ensuite pendant le jeu. Savoir où casser les animations. Pour les casser au bon moment, pour pas avoir
pas
de raccord, ou des trucs comme ça.
Et les acteurs, vous les avez trouvés où en fait?
Ici même, voilà.
Vous avez travaillé à combien dessus déjà?
On va dire deux full time avec des aides ponctuelles de programmation additionnelle, un peu de retouches photo.
Oui.
De potes à moi pour la musique.
La musique, ouais.
Voilà.
Un gars qu'on avait dit pour écrire, donc voilà, c'est.
Faut que ça, j'y crois. Alors,
concrètement, comment est-ce qu'on arrive à proposer aujourd'hui un jeu sur le Xbox Live Arcade? Comment ça se passe
Sur le Community Games.
Sur le Community Games de la Xbox.
Alors en fait, Microsoft, ils ont fait quelque chose d'assez innovant avec les Community Games. C'est que normalement, pour faire un jeu, même un jeu Xbox Live Arcade, il faut être un développeur agréé avec Microsoft, être en relation avec Microsoft. Et c'est Microsoft qui approuve les jeux, c'est-à-dire qu'il faut avoir des critères. Et si Microsoft dit je veux pas de ce jeu, ils veulent pas de ce jeu. Ce qu'ils ont fait avec le Community Games, et maintenant qui s'appelle Indie Games, c'est qu'ils ont fourni tous les outils de développement sur Internet aux développeurs, n'importe qui peut les télécharger. Et c'est la communauté de développeurs qui va approuver le jeu. C'est-à-dire qu'ils ont des guidelines.
C'est d'autres développeurs, c'est les autres développeurs qui approuvent le jeu, c'est pas des joueurs, c'est les autres développeurs.
Et Microsoft n'a pas de droit de regard direct sur le jeu, en fait. Hein.
Non, en fait, Microsoft détermine les guidelines, et si les jeux, en fait, les développeurs qui review les jeux sont obligés de suivre ces guidelines. Et si,
alors, les guidelines, c'est quoi des guidelines?
C'est pas de pornographie, il faut que... je ne sais pas exactement. Bon, en gros, c'est sur la pornographie, ça doit être un jeu, ça doit pas être seulement
une vidéo.
En gros,
tu peux faire n'importe quoi, mais il faut respecter un certain code de déontologie, quoi.
Pas trop de violence, d'accord, par exemple, sur votre jeu,
tu peux pousser pas mal loin dans la violence, mais
pas dans le cul.
C'est très américain.
En fait, il y a eu un jeu
c'est très culturel, le jeu vidéo, en fait, hein. C'est pas de cul, mais beaucoup de violence.
Votre jeu n'est pas trop saignant, enfin, il y a pas une...
Ah non, on est plus ou moins contre le sang.
Oui. Ouais. Voilà, c'est pas bien. Non, mais si, c'est assez abstrait, quoi. C'est beaucoup des effets de lumière, des flammes, des choses comme ça, parce que dès qu'on met du sang, on s'attend à un certain, ça peut détonner sur un truc. C'est du sang, ça fait plus réaliste.
Et le sang digitalisé, c'est d'autant plus,
voilà. Donc, alors on s'attend à ce que les gens aient des cocards ou des trucs comme ça. Alors que là, c'est over the top. Il y a des effets de lumière, il y a des explosions partout. Donc c'est très lumineux, très très explosion.
Pas de sang, mais des explosions.
Combien de temps ça vous a pris, en fait, pour à partir de l'idée initiale, hein?
L'idée initiale, elle traîne depuis très 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 longtemps. On avait déjà prototypé des trucs quand on avait 12-13 ans.
Vous avez eu une 3DO, vous aussi, c'est ça? Vous avez joué qu'une 3DO?
On n'est pas aussi vieux que ça, non.
Ah mince. Bon, non, mais je vous la montrerai, c'est très bien.
Ouais, donc ça traînait depuis longtemps. Et puis quand ils ont sorti le XNA, Microsoft, ces outils, on a vu en ça une opportunité de faire un jeu.
Le XNA, c'est quand? C'est 2006. C'est quoi?
Ouais, ça doit être 2007.
2007, ouais.
2007, c'était le premier concours Dream Build Play, qui sont les concours de Microsoft qui sont ouverts à tout le monde.
Auquel vous avez participé, alors?
On a participé à celui de 2008. En fait, on a vu XNA, on s'est dit, il y a la deadline du 2008 qui était en août 2008, et on va faire un jeu pour ça. Et on a fait une première version du jeu. Pour le Dream Build Play 2008, en été 2008, et on a été dans les 20 finalistes, et ça nous a motivés. Et là, on a décidé de pousser le jeu un peu plus loin avec ce qu'on avait, et on a travaillé dessus en part-time pendant un an pour essayer de rendre le produit qui est maintenant, en fait.
Mais donc, ça a été un an de développement.
Un an et demi en tout.
Un an et demi de développement en plus de votre travail salarié. C'est quand même, faut être motivé pour sortir ça.
Est-ce qu'il y a un entraînement particulier pour justement filmer les scènes, etc.?
Un entraînement particulier.
Je sais pas, moi, c'est comme un jeu de combat.
J'ai pratiqué le kung-fu.
Ah, donc
ça m'a aidé au départ comme personnage de base. Après, oui, j'ai supervisé les séances pour dire aux gens comment donner un coup de poing, comment donner un coup de pied. On a dû mettre un matelas lors des cascades pour éviter que les gens se blessent. Bon, ils sont quand même tombés à côté de temps en temps, ils sont éclatés sur le carrelage, mais bon. Ce sont les risques du métier, voilà.
Mais donc une fois que le truc était tourné, vous avez travaillé, c'est ça. Vous avez combien de personnages différents? Enfin, tu parlais de tout à l'heure avant l'émission de sprite.
Donc de sprite, oui, c'est 5 sprites différents.
Donc vous avez juste 5 personnages, 5 bases de personnages, en fait.
5 bases de personnages graphiques qu'on a ensuite déclinées au niveau couleur et surtout au niveau gameplay, c'est-à-dire que. On a 5 personnages graphiques, mais on a plein de façons de les jouer et d'ennemis différents et de choses comme ça au niveau gameplay. Voilà.
D'accord. Et en fait, alors juste pour revenir sur l'arrivée progressive sur cette plateforme de téléchargement, donc vous avez participé au concours, vous avez fini dans les 20 premiers. Après, vous avez créé finalement Streets of Fury à partir de ça. Et vous l'avez. Comment ça se passe? Vous le mettez à disposition sur des forums de discussion? Ça se passe comment pour avoir cet approval, cette approbation de la part des autres développeurs?
Il y a une interface où, avec des forums, etc., où tu submites ton game, les gens peuvent le télécharger.
On s'est déjà fait engueuler plein de fois.
C'est vrai.
Donc on soumet son jeu.
Tu uploads. Ouais. Ça. Bon, tu mets ton jeu sur Internet.
Voilà.
Et les gens peuvent le télécharger et ils le testent. Et là, ils disent OK. ça marche. Ou alors, non, y a des bugs, le jeu est injouable. Voilà, en gros.
D'accord. Et Microsoft fait confiance à cette communauté-là pour. Et une fois que. Il faut combien de voix? Il faut un.
Il faut 4-5 voix, je crois, enfin, que 4 développeurs disent OK, c'est bon, et qu'il n'y en ait pas qui disent non, c'est pas bien.
D'accord.
On développe sur quoi? Sur PC, évidemment.
On développe, alors ce qui est pas mal, c'est que ça aussi c'est une grande première, c'est qu'on peut, avec une Xbox normale, en payant un abonnement de $100 par an, on peut tester les jeux sur la Xbox. C'est-à-dire que les jeux marchent sur PC et sur Xbox.
On peut les passer directement.
On les teste sur la Xbox.
Mais donc vous êtes aussi, du coup, vous faites aussi partie des membres du jury pour les autres jeux indie, alors du coup.
Oui.
Et donc vous avez approuvé aussi d'autres jeux? Ou non?
Non, on devrait, mais on n'a pas fait le temps.
Vous êtes pas hyper communautaire.
Ouais. Ouais, ça prend du temps de faire un jeu.
Après, on gueule parce qu'ils mettent du temps à approuver notre jeu, quoi.
On va revenir sur Streets of Fury tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, mais tout de suite, Cities XL, tiens. Alors, la bande sonore d'un city builder est rarement très intéressante, donc on va pas s'attarder sur cette espèce de pseudo techno d'ascenseur, un truc comme ça. Ouais, non, au niveau de la bande son, c'est quand même pas là où c'est le meilleur. Cities XL, donc, de Monte Cristo Games, c'est sorti. Ça faisait assez longtemps qu'on en entendait parler. Donc le on appelle city builder, donc ce Sim City like massivement multijoueur, il était présenté comme ça. Donc Patrick, toi tu y as joué, premières impressions.
Alors moi, pour situer un petit peu l'histoire, je suis pas un fan du genre, c'est-à-dire que je suis pas un fan de City Builder, j'en ai pas fait beaucoup, donc là j'ai vraiment
ça a commencé à la fin des années 80.
Exactement, mais j'ai passé mon tour, j'étais plutôt sur les jeux à base de digitalisation. Enfin, c'est une question de point de vue et d'orientation. Non, en fait, non, voilà, moi je suis plutôt un newbie dans le genre et j'ai trouvé que le jeu était très, justement très accessible. En termes de, lorsqu'on connaît pas bien le genre, je trouve qu'on est plutôt bien guidé par le jeu. Je trouve qu'au niveau réalisation, c'est plutôt pas mal. Graphiquement, il y a vraiment un bon moteur.
Alors, juste en parlant du début du jeu, qu'est-ce que tu as pensé de ce magnifique générateur d'avatar?
J'ai zappé, en fait. J'avais pas trop le temps, donc j'ai zappé. J'ai fait un truc aléatoire.
Toi qui aimes bien le cinéma bis et,
bah ouais, mais enfin,
et les horreurs, apparemment.
Ah non, mais c'est un truc exceptionnel parce qu'on comprend pas l'intérêt de faire un générateur d'avatar avec un city builder parce que c'est vraiment deux choses différentes.
Mais il nous représente après sur notre site, c'est ça, sur notre
ouais,
page.
Ouais, mais là, c'est carrément une construction en 3D avec un personnage en 3D où tu peux gérer tous les paramètres. Genre, t'as 15 paramètres pour le montant du personnage.
Enfin, c'est pas le premier jeu non plus qui fait ça.
C'est pas le premier jeu qui fait ça.
Mais aussi mal.
Effectivement, Electronic Arts l'avait fait, des générateurs d'avatar comme ça pour tous ces jeux où tu peux créer ton personnage, des jeux de golf et tout ça. Mais alors là on atteint un sommet parce que alors, quand tu appuies sur la touche aléatoire, c'est une horreur absolue. C'est-à-dire que t'as beau cliquer mais 123 fois d'affilée, et ton personnage est toujours moche.
C'est vrai que j'ai un peu zappé toute cette partie-là.
Il faut quand même rappeler que, alors moi, Cities XL, pour que les choses soient claires, je n'y ai pas joué. Je l'ai pas encore reçu, malheureusement la poste fait des siennes en ce moment, hein, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je l'avais vu en amont chez le développeur pendant de longues heures et j'étais seul, on me l'a bien montré. Donc ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que Cities XL, son originalité, et ça vient aussi de City Life, parce que Cities XL c'est un peu le successeur spirituel de City Life, c'est que normalement dans les city builders à la SimCity, parce que SimCity c'est quand même le jeu que tout le monde connaît comme étant le représentant des city builders, c'était des jeux, on va dire, américains. C'est-à-dire que toutes les constructions, c'était rectiligne, carré, etc.
Ce qu'on a moins ici.
Voilà. Ouais. Et avec un certain SimCity, je sais plus lequel, on a eu à 45 degrés. Donc là, c'était waouh, la révolution.
On pouvait construire des rues,
à 45 degrés.
Exactement.
À 45 degrés. Et avec City Life, le précédent, effectivement, on pouvait commencer à avoir des trucs courbes.
Des rues courbes. Voilà. Exactement.
Et là, Cities XL, un de ses intérêts, en plus d'enlever beaucoup des défauts de City Life, un de ses intérêts, c'est qu'on peut avoir au niveau infrastructure des longues rues courbes. Alors ça paraît
un tout petit détail, mais en fait, quand on fait un city builder, quand on construit une ville, ça lui donne un aspect hyper crédible et réaliste, et pour ça, c'est clair que c'est vraiment une réussite, c'est-à-dire que on peut vraiment créer des villes qui ressemblent à des vraies villes, avec des vrais échangeurs autoroutiers.
Avec une gestion du relief qui est pas mal aussi. Oui, il y a une bonne gestion lorsqu'on construit une maison.
Donc là-dessus, moi, pour ce que j'en ai vu, après, je l'ai pas pris en main, je le répète, mais pour ce que j'en ai vu,
non, mais c'était une bonne chose. Finalement, c'est le résultat auquel ils sont arrivés. C'est vrai que t'as une certaine liberté. Après, moi, j'ai tendance à commencer mes villes dans les city builders par le syndrome ville du Far West.
C'est-à-dire la rue principale.
La rue principale au milieu, et puis une rue en perpendiculaire. Voilà, et puis on construit, et puis après, on s'étend au niveau.
Le mall dans un coin.
Voilà, c'est ça.
Classique.
Et donc, c'est vrai que Cities XL est un peu sur les modes classiques des city builders, c'est-à-dire qu'on commence un peu toujours de la même manière. Habitation, industrie, habitation, industrie, habitation, industrie. Ah, merde, la pollution.
Et commerce,
et les bureaux, et les hôtels. Et après, à partir d'un moment, il faut mettre des soins médicaux. Puis ensuite, il faut mettre une école. Et puis
un commissariat. Le but, c'est pas de perdre de l'argent, c'est d'en gagner. Et il faut toujours gérer les humeurs de ces ouailles. Et plus les habitants sont riches, plus ils sont exigeants, voilà. Et plus ils ont besoin de services.
Voilà. Voilà. Et c'est là où Cities XL est une réussite. Alors, ils avaient déjà commencé, donc Monte Cristo, ils viennent pas d'arriver, tu t'en parlais tout à l'heure, donc City Life, qui était pas mauvais en soi, hein. C'était pas des mauvais city builders.
Non, il y avait certains mauvais choix de design.
Ouais, il y avait des choses un peu pénibles. Donc là, ils sont revenus vraiment au cœur du game design city builder. Et l'intérêt, c'est qu'il y a quand même, parce que l'intérêt de construire une ville, c'est gérer les paramètres, c'est gérer les tonnes de paramètres qui vont du chômage à la pollution, au transport, à la culture, au sport, aux activités, au tourisme, à la production. Enfin voilà, il y a vraiment plein de... Et on peut pas trop diminuer le nombre de ces paramètres-là, parce qu'autrement, ça simplifie le jeu, oui, mais ça perd de l'intérêt, tout un intérêt. Mais donc, ce qu'ils ont bien réussi, c'est garder tous ces paramètres, mais en faire quelque chose d'assez simple à contrôler. C'est vrai que les menus sont assez faciles à apprendre.
Alors moi, ce que je trouve dommage, alors je le répète, j'y ai pas joué, mais sur le papier, j'ai vu qu'il y avait pas de catastrophe. Alors les catastrophes,
moi, j'ai jamais aimé les catastrophes.
C'est hyper important, parce qu'on sait qu'aujourd'hui on peut avoir des tornades en France, hein. Donc notamment c'est intéressant de voir comment une fois qu'on a créé sa ville, comment on peut gérer une catastrophe. Ça fait quand même partie des city builders. Et d'après ce que j'ai compris aussi, mais arrêtez-moi si je me trompe, il n'y a pas de gestion claire des transports en commun.
Ça c'est relou.
Ça, c'est... Papier. Je vais jouer quand même, hein, parce que moi c'est toujours des jeux qui me plaisent. Moi j'aimerais bien qu'on revienne sur le côté MMO.
Parce que c'est Cities XL. Son grand argument de vente, c'est non seulement c'est un city builder, on fait sa ville, mais on fait sa ville sur une planète là où il y a d'autres joueurs qui ont aussi fait des villes, et il y a des échanges commerciaux entre joueurs.
C'est une première, je crois, dans le genre, ou je me trompe?
Il y a eu déjà un vieil MMO en 99-2000.
J'y ai joué, parce que c'était un des premiers jeux auxquels j'ai joué à Gamekult. C'était un jeu Monte Cristo, c'est pas Startopia, je sais plus comment il s'appelle.
Enfin, avec le même concept de créer une ville.
Sauf qu'à l'époque, l'avantage, c'est que c'était gratuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on achète sur Cities XL 45 euros, donc ce qui est le prix d'un jeu PC, on doit, si on veut participer à l'aspect multijoueur du titre, entre guillemets, on doit payer entre 8 euros par mois si on paye pour un mois, à peu près 5 euros par mois si on paye un peu plus.
Alors, pour l'aspect, si on se tenait à l'aspect, c'est un MMO, donc on paye un abonnement, c'est vrai que ça n'a rien de choquant à l'époque où World of Warcraft, que ce soit World of Warcraft, Dofus et tous les MMO actuels, enfin, sauf les MMO gratuits à chaque item, mais bref, c'est un autre sujet, se font en payer un abonnement seulement. Là, c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'on est, c'est quoi l'intérêt?
Dans la présentation, j'ai passé au moins une heure dessus à bien comprendre. Alors, il y a un intérêt, mais c'est pas vraiment du multijoueur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un intérêt, il y a un leaderboard. Bon, ça, c'est vraiment limite. Enfin, bon, c'est pas pour ça qu'on va payer. Mais il y a tout ce qui est un système de transactions, de bourses aux échanges, etc. Mais qui est pas forcément intégré dans le jeu. Donc, c'est-à-dire que c'est très intéressant, par exemple, pour aussi construire
déjà pour s'échanger les ressources dont on peut avoir besoin.
Ou construire, je crois, des choses en commun.
Et construire,
on peut,
voilà.
On peut avoir des projets communs entre joueurs.
Des projets communs.
Collaborer sur un projet.
Après, moi, je trouve ça un peu limite en termes de. Moi, je crois que je vais évidemment y jouer, mais je trouve ça un peu limite en termes. En termes de pricing, en termes de prix, pardon,
ouais, en termes de prix,
et ça, moi, ça fait quelques mois, voire quelques années qu'il y a cette dérive. Hein, on en parlait encore la semaine dernière avec les trucs à acheter dans Need for Speed. Et ça, par exemple, je trouve que ça me paraît un peu cher par rapport à ce qui est fourni derrière. D'autant plus que moi, ce que j'aurais aimé, notamment pour ce prix-là, c'est la possibilité de créer une ville avec un pote ou machin. Et ça, c'est pas possible.
Ouais, un truc en temps réel. Voilà, on se met à deux ou trois.
Par exemple,
donc
il y a pas vraiment de multijoueur. C'est qu'on voit, on peut aller voir les villes de ses amis, enfin ou des inconnus. En utilisant son petit avatar tout moche, donc on peut aller voir les villes de ses amis, mais on paye juste pour avoir des échanges commerciaux ou des constructions communes, mais sur le papier.
Il faut quand même soigner son avatar, alors, parce que si on se balade avec lui dans la ville d'un pote,
ça va être des processions de gens laids, en fait. Ça va être.
Il faut étudier cet aspect-là. Ouais.
Globalement, c'est un jeu prometteur et qui semble tenir beaucoup de engagements.
Il faut savoir aussi qu'avant CityXL, on peut jouer un City Builder en solo. Hein, moi c'est, j'ai toujours joué donc SimCity, SimCity 2000 et SimCity 4 hein, qui sont les gros titres auxquels j'ai joué. J'y ai toujours joué en solo et j'ai pas souffert d'y jouer en solo.
Et puis il faut dire qu'aujourd'hui la concurrence est pour le moins minable, puisque le dernier SimCity, c'est un SimCity société qui était une chérie monumentale. C'est pas du tout un City Builder, c'est vraiment une catastrophe.
Donc c'est vrai qu'en titre solo, moi franchement j'ai vraiment rien à reprocher. Après moi ma ville ne fait pas encore 10 millions d'habitants, hein, je pense que je vais y arriver, parce que alors les cartes sont immenses par contre, et les cartes sont jolies, et les cartes font 10 km sur 10, enfin je crois quelque chose dans le genre. Donc il y a vraiment de l'espace pour
l'interface est assez simple, je trouve que c'est assez fluide l'interface.
Au niveau mode solo et jeu en lui-même, il y a vraiment aucun souci. Moi je pense que je vais bien m'y accrocher, je vais faire ma mégalo Paul écolo, même si j'y arrive jamais en fait. C'est un des soucis dans les City Builders. Je finis toujours par balancer les pauvres près des quartiers pollués. Enfin bon, c'est horrible en fait. Tu finis par être un vrai bâtard quand tu fais ça. Hein. Mais bon, bref. Mais c'est vrai que pour le mode en ligne, à payer 5€ par mois pour être sur un chat, finalement c'est beaucoup ça. T'es sur un chat
en tout cas,
avec des gens.
En tout cas, on va essayer. Puis on en reparlera d'ici quelques mois.
On en reparlera sans doute. Ouais. Hein, CityXL, donc Monte Cristo sur PC, 45€. Et ben maintenant, on va accueillir Monsieur Fall de TrickTrack.net, comme chaque semaine, pour sa chronique Jeux de Société. Bonjour, Monsieur Fall.
Bonjour, mon cher Erwan. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien trouver des jeux qui font passerelle entre le monde du jeu vidéo et le monde du jeu de société. Je ne sais pas, peut-être parce que j'imagine que je vais être compris plus facilement et que vous allez imaginer ce que peut donner la chose une fois posée sur votre table. Eh bien, cette semaine sort un jeu qui fait passerelle entre le monde du jeu vidéo et le monde du jeu de société. J'ai nommé Rush and Crush, un jeu de course futuriste, un peu sur la lignée de ce que peut être Wipeout sur vos différentes consoles que vous manipulez avec dextérité, mon cher Erwan. Bon, vous remarquerez que je fais une comparaison avec Wipeout, mais je n'y connais absolument rien, je n'ai jamais pratiqué, mais je vais vous faire un descriptif de ce qu'est Rush and Crush et vous allez me dire si cela y ressemble, mon cher Erwan. Alors, Rush and Crush, c'est tout simplement une course de bagnole futuriste. Vous avez un plateau que vous allez poser devant vous, un plateau modulaire, puisque vous allez faire une piste, un circuit fermé, sur lequel vous allez courir. Chaque joueur va avoir devant lui une petite plaquette représentant son véhicule, avec le passage des vitesses, certaines caractéristiques supplémentaires, des armes, vas-y que je te balance des mines, et vas-y que je te balance un coup de lance-flamme dans ta tête, et vous allez avoir des véhicules posés sur le parcours et des dés. Et c'est parti, à votre tour, vous allez gérer votre véhicule, trouver la meilleure trajectoire, éviter les pièges posés par le circuit, vous allez avoir des zones de slalom, des zones plus ou moins rétrécies. Bien sûr, vos adversaires vont vous lancer des choses au visage, par exemple des bombes, des coups de lance-flamme dans la tête pour vous ralentir, mais vous, toujours serrant bien votre volant à demain, vous allez essayer de franchir la ligne d'arrivée le plus vite possible, le premier. Alors il y a bien sûr du hasard, puisque les déplacements sont gérés par des dés, mais il faut savoir que le jeu a été développé par 3 personnes pendant plus de 5 ans, que parmi eux il y avait un statisticien. C'est vous dire si les calculs de probabilité sont faits de telle sorte que vous ayez quand même du contrôle sur ce que vous faites. Alors pour avoir pratiqué Rush and Crush, tout en n'étant pas un spécialiste des courses futuristes sur console, je peux vous dire, mon cher Erwan, que j'ai pris beaucoup de plaisir. Et oui, il y a quand même beaucoup de calculs et de gestion, ça c'est pas pour me déplaire. Il y a énormément de tensions et beaucoup de fun et d'amusement. d'amusement. Oui, car on peut piloter de plusieurs manières, en étant prudent, en essayant d'optimiser ses trajectoires, en prenant soin de son véhicule. Mais quand on voit qu'on n'est pas prêt de gagner, on fonce la tête la première, on prend tous les risques, on pousse le moteur jusqu'à la limite de l'explosion, on pousse ses adversaires à la faute, du coup ils font exploser leur moteur et on passe devant. Et ça, je peux vous dire, mon cher Erwan, que c'est extrêmement fun. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à Russian Crush, un jeu qui vient de sortir là tout de suite sur les étals pour 3 à 6 joueurs à partir de 12 ans, des parties de 45 à 60 minutes en fonction du circuit que vous allez mettre en place. C'est chez Rackham, c'est signé Frédéric Henry, Charlie Casal et Guillaume Lecier. À la semaine prochaine, mon cher Erwan.
À la semaine prochaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net. Et donc, vous aviez raison, effectivement, à vous entendre, ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à Wipeout en version de plateau. Moi, ça me rappelait Formule D, un très vieux jeu de plateau aussi, auquel on jouait des courses de voitures de Formule 1. La minute culturelle. Ouais, tout le monde, il est content. Alors, donc, je rappelle le règlement pour laisser aux auditeurs le temps de réfléchir de leur côté. Ceux qui ont la réponse lèvent la main. Donc, Cyril et Jordi, vous avez le droit de jouer. Il y a de la concurrence.
Ou
donc,
de souffler.
Non, pas de souffler. Donc, celui qui connaît la réponse lève la main. Et donc, voilà. Mais normalement, personne ne doit connaître la réponse. C'est un peu ça le but de la minute culturelle. Will Wright a eu l'idée de SimCity en travaillant sur son premier jeu édité. Quel est ce jeu ? Ah ouais, ouais. Donc pour la petite histoire, je vois qu'il n'y a pas de réponse pour la petite histoire. En fait, Will Wright a eu l'idée de SimCity en développant un jeu d'hélicoptère et de destruction. Mais en fait, pour développer ce jeu-là, il a dû faire un éditeur de cartes où il devait construire des villes parce que l'hélicoptère, il passait au-dessus des villes pour les détruire. Et en fait, Will Wright s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de plaisir à construire les villes qu'à les détruire avec son hélicoptère.
Il est sorti ce jeu, alors, finalement.
Et ça s'appelle Red on Bungling Bay. Et donc, c'était par Brother Bund, sorti sur Commodore 64 en 1984 et sur la NES et sur MSX en 1985.
Je suis un peu déçu de Patrick sur ce coup, si je peux me permettre.
Voilà. Et quel a été le premier beat'em up?
Renegade. Shoot'em up ou beat'em all?
Beat'em all. Mais moi, on appelle ça aussi beat'em up.
Ça va pas être un jeu sur Atari avec 3 pixels, là, ou un truc comme
Double
ça.
Dragon.
Il lève pas la main, donc ça sert à rien. Ah, je découvre, je rappelle les règles. Donc, Patrick.
Double Dragon?
Non. Vraiment, c'est petit.
Dragon Ninja?
Non, il s'agit donc de Kung Fu Master, qui était un jeu d'arcade en 1984 par IRM Corporation. Et puis, il est sorti d'ailleurs sur console. Mais donc, voilà, Kung Fu Master qui était un peu inspiré du film avec Jackie Chan et de Bruce Lee. Voilà, c'était le premier jeu à scrolling horizontal où il y avait des hordes d'ennemis.
Sur un seul plan, il faut rappeler. Il était sur un seul plan.
Il était sur un seul plan, donc. Rien à voir avec. Mais voilà, c'est quand même l'ancêtre de votre jeu. Quand même, je suis un peu déçu. Hein. Moi, je m'attendais à ce qu'il sèche, pardon.
Lovely. We can freeze to death while digging for the bones of a madwoman.
Dragon Age, qui ne va devrait plus tarder à sortir. Je n'ai évidemment pas la date de sortie. Pourquoi le son? Parce que c'est un peu la cinématique de la semaine. BioWare cartonne un peu au niveau des cinématiques. C'est vrai qu'on avait...
Et au niveau des jeux aussi.
Au niveau des jeux. Mais là, c'est les deux derniers. C'est le Star Wars MMO. Donc, ils avaient sorti une cinématique à l'époque de l'E3, je crois.
C'est ça, ouais.
Qui avait un peu scotché tout le monde. Et là, c'est vrai que je l'ai regardé au moins 3 fois, cette cinématique. C'est assez impressionnant. Et puis, à chaque fois que je la regarde, je me dis non, ça ne sert à rien. C'est la cinématique, ça ne veut rien dire de ce que sera le jeu, ça ne veut rien dire. Mais quand même, là, c'est un combat contre un dragon avec des orques et tout ça.
Et puis, il faut rappeler que Dragon Age, c'est quand même un jeu hyper attendu par la communauté des jeux de rôle, sur PC, sur.
Ah, ben bien sûr, oui, c'est quand même un
des jeux dans lequel on porte beaucoup d'espoir, même si
tout le monde parle est-ce qu'il va réussir à être l'héritier de Baldur's Gate,
retour aux sources, tout ça.
Retour aux sources,
on l'espère.
je sais pas si on en parlera, mais on me parle aussi beaucoup de Ryzen aussi en ce moment, qui jeu de rôle et Heroic Fantasy.
J'espère
aussi
qu'on en parlera rapidement dans une des prochaines émissions. Voilà, moi je suis dessus.
Mais donc il y a du potentiel en jeu de rôle en cette fin d'année.
Voilà, en jeu de rôle en tout cas, on est relativement gâté cette année.
On revient sur nos deux invités. Donc Streets of Fury, maintenant c'est sur le Community Games. Alors est-ce que ça se vend? Est-ce qu'on fait fortune? Bah quand même, en étant développeur indépendant. Je sais pas, la Ferrari rouge là en laquelle vous êtes arrivé, c'est bien ça. Ah ouais, d'accord. Oui.
Bah bon, déjà on touche 70% du prix de vente. Donc
c'est
là,
on rappelle le prix de vente du jeu, peut-être.
Alors, c'est 240 Microsoft Points, ce qui correspond à 3 $ aux États-Unis et
2,40
en France. Voilà. Bon, là-dessus, on touche 70%.
Voilà. D'accord.
Donc c'est plutôt honnête, de la part de Microsoft, sachant que eux ils font zéro promo. C'est nous qui devons nous occuper. Et s'ils font de la promo, eh ben c'est retenu sur ta note. Donc
ouais, d'accord.
Enfin, je sais pas s'ils le font vraiment, mais bon, en tout cas. Bon.
Et le jeu est sorti sur quel territoire exactement?
Alors France, États-Unis, pas mal de pays d'Europe, mais pas tous.
Ah ouais. Donc c'est pourquoi? Parce que c'était volonté de votre part ou
Bah en fait non, c'est le Indie Games, le service Indie Games est pas disponible partout pareil.
Vous l'avez sorti en fait dans tous les territoires où l'Indie Games est présent.
Voilà, nous on a la liste de pays, on peut cocher pour sortir où on veut. Bah, on voit pas trop l'intérêt de garder ça pour nous, donc voilà.
Et où est-ce qu'il marche le plus? Où est-ce qu'il se vend le plus?
Alors il cartonne pas mal au Japon.
C'est rigolo ça.
Au niveau à croire que c'est un truc assez culturel quoi.
On rappelle Alain Delon. Alain Delon est une star au Japon. Non mais c'est notre jeu vidéo et t'as un carton au Japon.
C'est la Mireille Mathieu. Ouais.
Non mais par exemple, pour donner une idée, on a à peu près 8% des gens qui testent la démo qui achètent le jeu.
Ah, c'est pas mal. Hein.
Donc là, on a eu 25 000 tests. On en a vendu 2 300. Mmh. Voilà.
Ah, c'est pas mal, hein. Moi, je suis content pour vous. Voilà. C'est un bon
débat. C'est pas encore, ça permet pas encore de financer un développement.
Non, c'est sûr.
Pas la fortune, non, mais.
Non mais c'est plutôt pas mal.
Et puis on est content que des gens jouent au jeu et l'apprécient, donc l'achètent, et ça fait plaisir.
Mais moi je m'attendais vraiment à pire entre guillemets, non pas par rapport à la qualité du jeu, mais parce qu'effectivement les indie games, les jeux indépendants, il faut les trouver. Hein.
C'est encore le problème. C'est vrai qu'il faut aller sur marché du jeu, jeu indépendant et pour.
Et après, faut
qu'après ils sont pas valorisés, voilà, quoi, ils sont
pas utilisés en avant. Non, c'est
Donc vous avez la chance, par exemple en France, en tout cas, d'être dans les 5 premiers mieux notés. Donc on peut vous trouver assez facilement en allant dans la sélection mieux notée.
Et vous pouvez aussi, il y a aussi une section finaliste du concours. Vu qu'on était finaliste du concours Dream Biplay 2008, on est dans la section finaliste de concours.
Voilà, mais c'est vrai c'est pas évident.
Les gens n'ont pas le réflexe encore d'aller dessus parce qu'il n'y a pas eu encore de maxi gros carton ou qu'il y a eu des front page dessus, de magazines, etc.
On va beaucoup plus sur l'Xbox Live Arcade en fait que sur.
Oui, c'est vrai que l'Xbox Live Arcade est mis en valeur, ne serait-ce que par les Summer of Arcade. C'est vrai qu'en sortant des choses, des trucs comme Shadow Complex ou Braid ou des choses comme ça, ça incite les gens à aller voir ce que c'est. Quoi,
mais c'est ce que nous rappelait un auditeur dans le com des coms. Quand il parlait de Jump d'Arcado, il disait que c'est dommage que Jump n'ait pas été sur l'Xbox Live Arcade parce que là, Jump et Street of Fury et tous les jeux de Community qui sont de qualité, ils passent quand même globalement à la trappe.
Hein. Mais est-ce qu'on... Pardon.
Non. Ils passent à la trappe, mais en fait, ils sont quand même accessibles. C'est vrai que c'est intéressant cette nouvelle façon, parce que une des questions sur les jeux indépendants, nous, ça fait quand même assez longtemps qu'on parle de la scène indépendante à Silence on Joue, et c'est vrai que pour l'instant, c'était surtout jeu PC, et là, c'est un peu le début où ça peut débarquer sur console, et un développeur indépendant peut développer sur console, ce qui n'était pas forcément le cas.
Est-ce qu'on a des retours des joueurs sur cette scène indépendante Xbox? Comment ça se passe, hein?
Bah, on a les notations déjà, c'est directement visible sur Xbox, et puis on regarde sur les forums.
On
parle du jeu un peu dans votre
votre grande émission.
Il faut faire toute la com soi-même. J'ai fait des mailings, etc. Après, suivre les posts sur les forums, tout ça. C'est le revers de la médaille, quoi. Microsoft te donne plein d'outils, mais pour la promo, tu te démerdes. Voilà.
Je pense qu'ils ont un peu peur de mettre les community games en avant, vu qu'ils ils maîtrisent pas, ils veulent beaucoup maîtriser la Xbox et ils maîtrisent pas.
Ça vient quand même d'eux, cette idée.
Oui, mais ils le mettent un peu dans un coin parce qu'ils veulent pas qu'il y ait des choses.
C'est comme s'ils voulaient ne pas être en retard sur la scène indépendante, mais en même temps pas forcément la pousser trop et garder le contrôle. C'est un truc intéressant. Mais faire un jeu indépendant, c'est bien, mais c'est quand même que le début, non? Est-ce que vous avez d'autres projets?
Fort de cette expérience, ça c'est sûr que maintenant qu'on a un cycle complet de développement d'un jeu indépendant, on voit les tenants, les aboutissants, on sait comment mieux faire la promotion, comment mieux faire le jeu, bah oui, il va y en avoir d'autres derrière, ça c'est sûr.
Et ça va être quoi? Ça va être un 2, ça va être encore un beat'em all, ça va...
On a plusieurs idées, on va sûrement garder le système de digitalisation de sprite.
Mais... Est-ce que vous savez toujours pas dessiner, c'est ça?
Non. On va peut-être essayer de trouver des gens pour faire des décors un peu mieux ou des trucs comme ça.
Et vous comptez avoir toujours ce... Enfin, moi, c'est ce qui m'avait vraiment plu dans le jeu, c'est le côté second degré, l'exploitation un peu des clichés du beat'em all et cette espèce d'appropriation un petit peu des choses qu'on a vues dans plein de jeux, mais retravaillées aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que vous comptez continuer à...
Je pense qu'on va garder de l'humour quand même, parce qu'on aime bien faire des choses un peu qui se prennent pas trop en sérieux, mais on va peut-être essayer de se prendre un peu plus au sérieux. Parce que là, on a un peu le revers de la médaille de faire un truc second degré. C'est que, après, bon,
les gens qui le prennent au premier degré.
Voilà.
D'accord. Oui.
C'est-à-dire que vous avez vu des retours de gens outrés.
Par exemple, mais c'est quoi ce scénario n'importe quoi? Bah oui, c'est un scénario n'importe quoi. C'est le principe, mais voilà.
Vous avez des influences en termes de jeux ou d'univers? Est-ce qu'il y a des univers, des jeux qui vous ont influencé pour développer ce titre?
Oui.
Des tonnes et des tonnes, ouais.
Au niveau gameplay, la grosse influence, c'est Guardian Heroes, quand même, qui était le premier. C'est Guardian Heroes sur Saturn.
Grand jeu.
On l'a fini 50 fois. Et c'était l'idée qu'ils ont eue de 1000 fois, 1500 fois.
En fait, allez.
L'idée qu'ils ont eue, c'était de faire un beat'em all qui se joue un peu comme un jeu de baston, en fait. Parce que d'habitude, les beat'em all, c'était à plan infini, c'était vraiment avec très, très peu de coups. Dans Guardian Heroes, on peut vraiment enchaîner les coups de manière différente. Et ils ont inventé le système de plans.
Vous avez dans le jeu actuel, ce qu'on a dans le jeu.
Donc c'est vraiment, on s'est inspiré de Guardian Heroes pour le côté, mais on a poussé encore plus loin le côté jeu de baston, enfin jeu de baston le normal dans un beat'em all, et on a vraiment un système de combo où on peut linker les coups ont des vraies propriétés sur la garde haute, la garde basse, des choses comme ça qui sont inspirées du jeu de baston. Et on a, on s'est inspiré un peu de Fatal Fury pour.
Ouais, d'ailleurs il y a un mode versus dans le jeu qui est tout à fait jouable. Même nous, ça fait 2 ans qu'on joue au jeu. Bah, on y joue toujours. On s'éclate dessus à 2 versus 2, quoi. Fait des équipes.
Ça te fait pas drôle quand tu joues de voir ton alter ego qui se prend des raclées en cœur de partie? Ça doit être trop long.
Au bout d'un moment, on fait la part des choses. Hein.
Au bout d'un moment, au début,
ça m'a fait mal, mais bon.
Streets of Fury, donc sur la partie Indie Games, 240 points, 280 points, je sais.
240
points. 240
points. Streetsoffury.com pour
ceux qui veulent. Et il y a des vidéos de gameplay, notamment, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Et vous prévoyez
pas. Essayez-le.
Oui, bien sûr. Vous prévoyez pas. D'ailleurs, vous pouvez pas le sortir sur PC ou pour les gens, parce que tout le monde n'a pas de Xbox 360.
Non, le jeu est sur PC, mais il est, disons, techniquement réglé pour la console, donc il faut faire il y a du taf pour le sortir sur PC au niveau des résolutions, des inputs et tout ça.
Et c'est pas en projet?
Si, on y pense, c'est à l'étude.
En projet lointain. Ok, merci Cyril Lagarrigue et merci Jordi Asensio d'être passé nous voir.
Silence
en joue,
merci,
c'est beaucoup. Un vrai plaisir. Et on va finir par la question rituelle. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi? Tiens, je vais commencer par vous, Cyril. Alors, qu'est-ce que tu as fait cette semaine quand tu ne joues pas?
Qu'est-ce que j'ai? Alors, apparemment, faut parler d'un film, tout ça. Moi, je voulais dire, ça aura un rapport avec le jeu vidéo. J'avais vu le film de Clint Eastwood, Mémoire de nos pères, qui est un film qui se passe dans la guerre du Pacifique, la Seconde Guerre mondiale.
C'est l'histoire de la photo, c'est ça, où il pose le drapeau en haut.
Exactement. Ouais. Et il y a une scène de combat une scène de bataille qui ressemble un peu au soldat Ryan. D'ailleurs, il y a Steven Spielberg qui est producteur. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé ce film qui est très très bien. Et après, je me suis dit, ça m'a donné envie de jouer à Call of Duty. Call of Duty 5 qui se passe dans la guerre du Pacifique. Mais j'étais un peu déçu parce que on sent pas, en fait, en jouant au jeu, je sentais pas le fait d'être soldat. Je me sentais beaucoup trop puissant par rapport à ce que je voyais dans le film. Ouais. Et donc voilà, c'était une expérience intéressante.
D'accord. Ouais. Jordi?
Quand je ne joue pas, soit je fais des jeux, voilà. Ou soit je fais du saxophone, je pratique le saxophone, voilà, c'est mon pain quotidien, on va dire.
D'accord, mais pas de films, de livres, de choses comme ça.
Ah ça, mais quelle horreur.
Ah, non, mais livre.
Non, si, je lis Le Trône de Fer actuellement.
Ah oui, parce que tu travailles.
C'est à moitié du travail, puisqu'on fait l'adaptation avec Cyanide du Trône de Fer.
D'accord. Trône de Fer, de quel auteur c'est ?
De George Martin.
D'accord. Clément ?
Moi, j'ai rattrapé un peu mon retard au ciné, parce que autant je suis en avance en série, on ne sait pas pourquoi, mais au cinéma, je suis un peu en retard. Donc, je suis allé voir Un prophète de Audiard.
Ah, c'est bien ça.
Si j'ai vraiment adoré. Alors, Audiard, déjà, moi, tout ce qu'il a fait, à part peut-être Un retrait discret avec Kassovitz, que j'aimais un peu moins, mais les autres, vraiment, De battre mon cœur s'est arrêté ou Sur mes lèvres, j'ai vraiment aimé. Mais autant Un prophète, là, je suis allé voir hier soir, là, je suis encore dedans, en fait. Donc, j'ai du mal à l'analyser avec du recul. Là, aujourd'hui, j'adore vraiment. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment un grand film. Et pour moi, ce qui prouve que le film français n'est pas forcément chiant. Et voilà, et c'est vraiment... Enfin, voilà. J'en parle encore avec un peu d'émotion, n'est-ce pas ? Mais Un prophète, je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas vu d'aller le voir, parce que normalement, il va bientôt sortir des salles, parce qu'il est quand même sorti depuis quelques semaines.
Quelques semaines, ouais, c'est clair.
Voilà.
Mais je cautionne, ouais, très beau film.
Patrick.
Oui, alors moi j'ai un retard énorme en bande dessinée, donc j'y vais tout doucement. Là en ce moment je lis Pascal Brutal.
De Riyad Satouf.
Exactement, et j'adore, enfin, je trouve ça, ça me fait rire. Quoi. Donc là je crois qu'il y a le troisième volume vient de sortir, mais j'ai commencé le premier.
C'est quoi comme si je ne connais pas du tout.
C'est comment expliquer c'est dans un espèce de futur alternatif où, pour situer un petit peu le contexte, on a Alain Madelin qui attaque son troisième septennat. Et on a le héros de la BD est un espèce de personnage ultra viril, mais en même temps
brut au cœur d'or.
Exactement, mais voilà. qui est attendrissant finalement. Mais en tout cas, c'est vraiment marrant. Moi, ça me fait vraiment rire. C'est plein de petits sketchs et puis plein de clins d'œil sur l'actualité. Tout ça. Enfin, c'est voilà.
C'est la première série, je crois, de Riyad Satouf.
Je crois aussi.
Qui a explosé depuis.
Exactement.
Hein,
mais en tout cas, voilà, je conseille Pascal Brutal. Ça mériterait d'être adapté au cinéma, peut-être d'ailleurs. Je pense qu'il y aura un potentiel pour adapter Pascal Brutal.
Pourquoi pas. Maintenant que Riyad Satouf s'est mis à la réalisation,
il y a du travail. Enfin, voilà. C'est pas évident, mais en tout cas, potentiel.
Alors moi, je suis toujours, on va faire original, des comics. En fait, sur les conseils de mon libraire, donc Arkham, ça fait longtemps que je les ai pas cités. Tiens, allez, je les cite. En fait, j'avais essayé, je m'étais mis à DC. Donc ça, je sais pas si j'avais raconté que j'avais raconté ici que j'avais.
Oh, si, on en a parlé, Erwan, déjà de ça, que tu t'es passé
du Justice League of America, et donc j'ai pas accroché, hein, franchement. Et bien, c'était scénarisé par Grant Morrison, donc qui est un des grands auteurs de comics dans les années 90 et qui continue, hein, aujourd'hui. Il reprend la série Batman et ce genre de choses. Et j'avais acheté aussi une de ses séries qui s'appelle Invisible. Donc c'est un truc très très étonnant, une histoire de sociétés secrètes, de gens élus qui ont des pouvoirs un peu bizarres, qui voyagent dans le temps, qui combattent une autre société secrète qui elle a le contrôle du monde. Enfin, c'est un truc très 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 complexe. Alors j'ai acheté les deux premiers tomes, là j'en suis au deuxième, c'est un peu rugueux. comment dire, il faut
venant de toi, c'est inquiétant quand même.
C'est en français ou en VO?
Non, c'est en VO. C'est peut-être aussi dû à ça, c'est que c'est quand même très construit. C'est un auteur a priori qui a beaucoup de références. On croise dans un voyage dans le temps, on croise le Marquis de Sade. Enfin, il y a pas mal de choses. Alors, faut pas le croiser trop près. Pour l'instant, j'ai encore un peu de mal à me mettre dedans. Donc là, j'en suis au tout début du deuxième tome, mais je vais continuer. Ça m'intéresse. Donc c'est de Grant Morrison. A priori, je ne connais pas, j'ai encore une culture un petit peu... Je débute encore, ça fait un an. Mais ça a l'air d'être un auteur assez intéressant, en tout cas. Ben voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo.
Libé Labo.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.